Le thème principal de ce verset, c'est la vision de Jacob, la vision de l'échelle de Jacob. Et nous essaierons d'étudier un certain nombre de sources, dont on vous a donné des polycopiés, dans le Midrash et dans la Gemara, par rapport à un thème principal, c'est-à-dire d'essayer de comprendre, d'après ce que le Midrash a dit, du contenu de cette vision de l'échelle, ce que l'on peut comprendre de l'enseignement de la Torah par rapport à ce que seront les thèmes principaux de l'histoire que la descendance de Jacob aura vue, c'est-à-dire l'histoire d'Israël. C'est un titre à peu près qu'on pourrait l'intituler. Je vous ai donné un mot un peu barbare, l'historiosophie. Je vous ai dit, s'il y a la sagesse de l'histoire d'après l'enseignement de la Torah concernant l'histoire des patriarches. Donc, je pense que nous pouvons procéder de manière suivante. D'ici une heure, on fera une petite interruption, à partir de laquelle vous pourrez, le cas échéant, poser des questions, et nous prendrons les thèmes qui sont posés dans vos questions. Et je commencerai par traduire le verset, le texte lui-même, et puis situer par approximation de quelques introductions les principaux thèmes que les commentaires nous donnent dès le début du texte. Alors, nous prenons le texte de la Torah lui-même, à partir du verset 10. « Vayetse Yaakov mi-Be'er Sheva, vayelech Harana. » Et Jacob sortit de Be'er Sheva, « Vayetse Yaakov mi-Be'er Sheva, et Jacob sortit de Be'er Sheva, vayelech Harana, et il alla en direction de Harana. » Alors, vous savez que Be'er Sheva se situe au sud de l'Israël. C'est là que Isaac habitait au moment où Jacob va être obligé de s'enfuir d'Eret Israël à cause de la colère, de la jalousie, de la rivalité, de la haine d'Ésaü, son frère. Nous devons reprendre les coordonnées historiques même du récit par approximation successive. Be'er Sheva se trouve au sud d'Eret Israël et Haran se trouve au-delà de la frontière, au nord. Haran est déjà indiqué dans le récit de la Torah comme étant la ville où Abraham s'est arrêté dans son voyage de Ur Kasdim à Eret Israël, dans une première étape depuis la Mésopotamie jusqu'à Eret Israël à proprement parler. Vaïlgar Bamakom, et Jacob s'est heurté à l'endroit, non pas à un endroit, mais à l'endroit. Donc nous sommes avertis que c'est un endroit qui est connu du récit, nous reviendrons sur ce point. Vaïalem Sham, et il passa la nuit là-bas. Donc, Vaïlgar Bamakom, il se heurta à l'endroit, Vaïalem Sham, il passa la nuit là-bas, qui va à Shemesh, parce que le soleil s'était couché. Vaïkar Meavne Hamakom, et il prit des pierres de l'endroit. Vaïasem Merashota, il en plaça de ces pierres. Et le texte ne dit pas il les plaça, mais il en plaça, Vaïasem. Il en plaça, ou à la limite, il les plaça, mais nous verrons que le texte est plus précis. Il en plaça Mera Ashota comme oreiller, ou comme littéralement protection pour sa tête, ou comme pierre de soutien de sa tête, c'est-à-dire oreiller. Vaishka Bamakomaou, et il se coucha dans cet endroit. Vayachalom, et il rêva. Vehine Sulam Tsav Artsa, et voici une échelle. Mutsav se dressant en direction de la terre, Artsa, Verosho Magia Hashamaima, et sa tête atteignant en direction du ciel, Hashamaima, Vehine, et voici, Malaché Elohim, les anges de Dieu, Olim Vedordim Bo, montés et descendaient, montant et descendant en lui. En lui, au masculin, renvoie d'abord à Soulam, à l'échelle. En français, ce serait un féminin. Et par le fait qu'il y a Olim Beyordimbo, nous verrons qu'il y a une divergence, pas une divergence, mais une discussion dans le Midrash. Est-ce qu'il s'agit de lire que les anges montaient et descendaient sur l'échelle, ou montaient et descendaient en Jacob? Bien, je reprends plus brièvement la lecture des versets. Donc, Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva, et Jacob sortit de Be'er Sheva, Vayelech Harana, et il alla en direction de Haran. Vaïlgar Bamakom, il se heurta à l'endroit, Vaïalensham qui va à Shemesh, et il passa la nuit là-bas, à parce que le soleil s'était couché, Vaïkar Mehavne Hamakom, et il prit des pierres de l'endroit, Vayasem Merahashotav, il en plaça comme protection pour sa tête, comme oreiller pour sa tête, Vaïkar Hamakom Ahou, et il dormit dans cet endroit. Vayachalom, et il rêva, Vehine Sulam Tzavartza, et voici une échelle qui se dressait en direction de la terre, Verosho Magera Shamaima, et sa tête atteignant en direction du ciel, Vehine Malaché Elohim, et voici les anges de Dieu, Olim Beyodim Bo, qui montaient et descendaient en lui. Bien, je voudrais, avant d'aborder le détail du texte, commencer par analyser une première introduction générale. Lorsque nous lisons le livre de la Genèse, il semble que deux histoires parallèles sont racontées, ou peut-être plus exactement une histoire à l'intérieur d'une histoire. La première histoire, c'est l'histoire générale de l'homme à partir du premier homme, l'histoire universelle, à l'intérieur de laquelle apparaît à partir d'Abraham un deuxième récit qui va avoir pour objet de façon plus centrale l'histoire d'Israël. Il y a plusieurs différences entre ces deux récits. Mais d'abord, l'analogie. L'analogie, c'est que les thèmes qui nous sont décrits, exprimés, sont très analogues dans le contenu, dans la forme et dans les perspectives. La structure générale de chacun de ces récits peut être formulée de la manière suivante. D'abord, le texte formule le projet de ce qui doit se passer. Ensuite, le récit de ce qui s'est passé. Ensuite, un jugement sur ce qui s'est passé, et enfin l'énoncé du bilan de ce qui s'est passé. Je reprends ces quelques points. D'abord l'énoncé du projet, ensuite le récit de l'histoire, le jugement du Créateur et le bilan de l'événement. Et on passe au thème suivant. Dans l'histoire générale, à l'échelle universelle, le fil conducteur est celui de l'échec. De génération en génération, d'étape en étape, de période en période, le projet d'identité humaine nous est décrit et échoue. En particulier, le thème qui nous occupera aujourd'hui, c'est celui de l'histoire de Caïn et de Abel. Les deux frères jumeaux, dès la deuxième génération, posent le problème des relations entre hommes. Le projet, c'est la solution de l'équation de fraternité. Le récit, c'est le récit d'un échec. Cette histoire échoue, Caïn tue Abel. Le jugement nous est donné à travers une très longue histoire de péripéties de sursis jusqu'au déluge. Et en fin de compte, le bilan, la violence est telle, l'agressivité est telle, que toute cette première période de l'histoire de l'humanité prend fin dans une catastrophe. Je reprends très brièvement cette analyse. Et dès que l'homme commence à se multiplier, se pose la question des rapports d'autrui à autrui. C'est l'histoire de Caïn et de Abel, à l'échelle de l'histoire universelle, et elle aboutit à un échec perpétuel. On pourrait reprendre le filigrane de toute l'histoire humaine à travers ce thème de la relation entre Caïn et Abel, perpétuellement Caïn tue Abel. Et puis voilà que nous arrivons à l'histoire centrale, celle d'Israël. Et nous retrouvons de nouveau deux frères jumeaux, c'est Ésaü et Jacob. Il y a aussi rivalité, il y a aussi haine, et cependant, il n'y a pas meurtre de Jacob par Ésaü. Je voudrais très brièvement situer, si vous voulez, les coordonnées de ce deuxième thème dans l'histoire d'Israël, qui reprend le thème de Caïn et de Abel, mais dans la perspective d'une espérance. Et nous aurons là, si vous voulez, le premier principe introductif, les thèmes d'identité décrits par le livre de la Genèse, à l'échelle de l'histoire universelle, à l'échelle des nations, à l'échelle des goïms, va toujours à l'échec. Et à l'échelle d'Israël, ce même thème est repris, mais dans la ligne d'une espérance. Et si nous analysons brièvement les données du problème de la relation entre Caïn et Abel, nous apercevons que il y a un problème de communication entre ces deux hommes. Abel est d'une certaine manière chargé d'éduquer son frère. Abel a la vocation du berger. Le berger est celui qui parle à autrui, s'occupe d'autrui, Abel est le frère, donc le berger, donc le pasteur. Et nous voyons que Abel échoue dans sa tâche, il est donc en danger. Si Caïn n'est pas éduqué, Abel est en danger. L'échec, c'est le meurtre de Abel par Caïn. Semble-t-il, il n'y a pas d'autre issue. Il faut que Abel éduque Caïn, et si Caïn n'est pas éduqué, Abel est en danger. Et le résultat de l'histoire, le point de l'échec, c'est que Caïn tue Abel. Mais il y avait quand même une issue. Et c'est ce que le texte nous dévoile à propos des relations entre Ésaü et Jacob. Si Abel reste chez Caïn, alors il est en danger d'être assassiné. À moins que Caïn soit devenu frère de Abel. Mais cela dépend de la capacité fraternelle de Abel de rendre Caïn frère de son frère. S'il y a échec du point de vue de Abel, alors Abel risque d'être victime s'il reste chez Caïn. Vous avez deviné la suite. Jacob s'enfuit de chez Ésaü. Il y avait une autre issue qu'Abel n'a pas utilisée. Abel est resté chez Caïn alors que Caïn n'était pas éduqué. Donc Abel a été assassiné. Dans l'histoire des patriarches, le même thème se reproduit. Et nous voyons que sur les conseils de sa mère, nous reviendrons sur les détails du texte, sur les conseils de Rebecca, Jacob va s'enfuir de la haine d'Ésaü. Donc il y a une espérance. Ésaü ne peut pas tuer Jacob parce que Jacob ne reste pas chez Ésaü. Vous comprendrez par vous-même les analogies contemporaines de ce problème. Nous verrons d'ailleurs tout à l'heure un texte dans le Midrash Agadol qui nous montre l'étendue de ce texte. Alors, je vous propose de commencer aujourd'hui l'étude des détails du premier verset, d'abord par la lecture de Rashi. Alors, vous avez donc les Chumashim sous les yeux. Vayetse Yaakov Bershava, Vayeler Harana. Je traduis d'abord littéralement. Et Jacob sortit de Bershava, où se trouvait la famille d'Isaac, et d'où Jacob a dû s'enfuir pour se mettre à l'abri de la haine d'Ésaü. Et il se dirigea en direction de Har. Rashi nous dit ceci. Par le fait que Aliédé, chez Bishwil, à cause de ce que Raot benot Knaan beni Itzrakabi, les filles de Knaan étaient considérées comme mauvaises aux yeux de Yitzhak, son père, Halach Esav et Ishmael, alors Ésaü est allé chez Ishmael. Je reprends la phrase pour la remettre en français. Par le fait que s'étant aperçu qu'il a perdu sa bénédiction, Ésaü est disqualifié parce qu'il avait épousé les filles de Knaan, puisque la bénédiction qui était prévue pour Ésaü a été donnée à Jacob, et le texte précédent que nous verrons immédiatement motive cette substitution de la bénédiction d'Ésaü à Jacob par le fait que Ésaü a épousé des filles du pays de Canaan, donc des disqualifiés du point de vue des engendrements qui doivent mener à l'identité d'Israël. Israël est préparé pour remplacer la civilisation de Canaan, et le premier interdit, si on peut s'exprimer ainsi, c'est le mariage avec les filles de la civilisation de Canaan. Tant que l'identité d'Israël n'est pas engendrée, la relation à l'extérieur d'Israël risque de dénaturer l'identité d'Israël. À partir du moment où l'identité d'Israël sera engendrée, quiconque de l'extérieur d'Israël peut entrer en Israël par conversion, parce qu'Israël existe déjà. J'emploie en français le terme de conversion, en fait disons giyour. Le fait de venir de l'étranger, de l'extérieur, à l'intérieur de l'identité d'Israël. Mais ici, Jacob n'est pas encore nommé Israël. Jacob est le troisième des pères, des engendreurs, des patriarches. Et lorsque sa propre mutation d'identité le mènera à fonder la société d'Israël, alors quiconque de l'extérieur, sauf quelques exceptions que dont la Torah s'explique, enfin, vous regardez la règle générale, de quelque lignée humaine que ce soit, qui viendrait à l'échelle individuelle adopter l'identité d'Israël, peut le faire parce que cette identité d'Israël existe déjà. Mais avant que l'identité d'Israël n'existe, ne soit engendrée, alors il y a un interdit absolu dans l'histoire des patriarches, dans les trois générations d'Abraham, Isaac et Jacob, d'épouser une fille étrangère à cette matrice qui prépare l'engendrement de l'identité d'Israël. Je pense que c'est suffisamment clair. Vous retrouvez d'ailleurs là le thème du mariage d'Isaac lui-même. Abraham interdit à Eliezer de ramener Isaac en Mésopotamie, parce qu'Abraham est sorti de Mésopotamie, il ne faut pas revenir en arrière. D'autre part, il ne peut pas lui faire épouser une fille du pays de Canaan, que Israël futur doit remplacer, du point de vue du centre de la culture, de la civilisation et de la culture humaine. Par conséquent, en principe, il n'y a pas de femme pour Isaac, c'est un des thèmes précédents. Mais voilà qu'un miracle se produit. De la famille d'où est sorti Abraham apparaît aussi, dans la Mésopotamie ancienne, antérieure, apparaît une femme qui pourrait être mariée à Isaac, c'est Rebecca. Alors Eliezer, lui, retourne à Ur-Kasdim, mais pour chercher une femme de la famille d'où Abraham était sorti, sans que Isaac ne revienne en arrière. C'était donc la rencontre entre Isaac et Rebecca. Mais ici, nous voyons que, dans le texte précédent, la bénédiction prévue pour Ésaü va être déplacée à Jacob lui-même, nous aurons à réétudier cela assez en détail, par le fait que Ésaü, qui pouvait être Israël au même titre que Jacob, puisqu'il est fils d'Isaac, il est frère jumeau de Jacob qui deviendra Israël, donc du point de vue de sa naissance, il pouvait être Israël, mais il a stoppé l'engendrement de l'identité d'Israël à son propre niveau et pour l'avenir, en se mariant à des filles du pays de Canaan. Vous voyez donc qu'il y a un ensemble de thèmes qui se relient à cette analyse que nous aurons peut-être à reprendre d'autre part, en particulier le problème du mariage mixte, qui est un problème extrêmement important pour le peuple juif contemporain. Alors je pense qu'il est important de reprendre cette définition. Tant que l'identité d'Israël n'est pas constituée, il y a impossibilité absolue de mariage, disons, exogamique, si vous pouvez prendre le terme consacré. Mais à partir du moment où l'identité d'Israël est constituée, alors il peut y avoir conversion à l'identité d'Israël et donc mariage postérieur à cette conversion. Ça sera en particulier le thème de Ruth qui entrera en Israël, parce qu'il peut entrer en Israël venant de très loin, la descendance de Lot, de Moab, parce que Israël existe déjà. Le clan Israël existe, alors l'individu venant des lignées étrangères peut entrer dans cette identité d'Israël et peut l'adopter. Mais avant que cette identité ne soit constituée, il y a impossibilité par définition. Je pense que c'est suffisamment clair. D'ailleurs, il faut aussi situer une remarque corollaire, que à la limite, l'identité d'Israël est la seule des identités humaines qui peut être adoptée. On ne devient pas goy, on devient juif. Je veux dire qu'on ne change pas d'identité chez les goy. Un Français ne devient pas anglais, même lorsqu'on lui accorde la citoyenneté anglaise, ou l'inverse. Sa descendance, une fois que lui a disparu, sa descendance, sa force d'acclimatation, d'assimilation, comme on dit, sa descendance peut être, disons, anglaise d'origine française, ou l'inverse. Mais on ne devient pas d'un peuple à l'autre. Chacun a sa personnalité concrète, précise, existentielle. Mais n'importe qui peut devenir juif. C'est une exception, c'est-à-dire, il faut, si vous voulez, inverser le cliché antisémite du racisme juif. Tous les goïms sont racistes, sauf les juifs. Je pense que c'est clair. Puisque n'importe qui peut devenir juif, alors que personne ne peut devenir autre que lui-même chez les goïms, même si on lui accorde le statut légal, politique ou sociopolitique de la citoyenneté. Et donc, Rachid nous donne cette première indication que Ésaü se rend compte qu'il est disqualifié parce que, sa bénédiction, je parlerai de la définition de la bénédiction d'Ésaü passée à Jacob, ce n'est pas n'importe laquelle. Et qu'il est disqualifié parce qu'il a stoppé les engendrements à son niveau et que la bénédiction vouée à Israël passera à Jacob. Alors nous reprenons le texte. על ידי שבשביל שראות בנות כנען בעיני יצחק אביו, הלך עשה וישמעאל, alors Esaü va chez Ishmael prendre femme. Nous relirons dans le chapitre précédent cet épisode. Esaü avait donc épousé des filles de Canaan, 10 qualifications. Il s'aperçoit, mais en partie seulement. Il ne comprend pas toute la raison de sa disqualification, mais une partie seulement. Il s'aperçoit que l'avenir ne passe plus par lui, mais par Jacob. Alors il y a une sorte de demi-repentir. Il va chez Ishmael pour prendre femme. Effectivement, nous savons qu'à un certain stade, il va y avoir alliance entre les deux rivalités contre Israël, contre Jacob devenant Israël, celle de Ishmael, qui était la rivalité à Isaac, et celle de Esaü, qui était la rivalité à Jacob. Et nous voyons Esaü contracter mariage avec une fille d'Ishmael. Le thème historiosophique, pour prendre ce terme, est très clair. Il y a alliance entre les deux rivalités à Israël. Une rivalité par Ishmael qui a donné l'islam, et une rivalité par Esaü qui a donné la chrétienté. Nous reviendrons aussi sur la définition de ces parallèles. Mais si nous confrontons ce que dit le texte en nous parlant du mariage d'Esaü avec une fille d'Ishmael, et ce qui d'autre part se traduit dans l'histoire des peuples, surtout des peuples rivaux de l'identité d'Israël au niveau des cultures et à travers les siècles et les millénaires, alors on s'aperçoit d'une péripétie importante. Lorsque la rivalité d'Esaü, du point de vue de la chrétienté, s'allie à la rivalité d'Ishmaël, du point de vue de l'islam. Et là, en termes contemporains, ce serait en court-circuitant beaucoup de siècles, mais nous vivons ces problèmes. En termes contemporains, ce serait les conversations entre le Vatican et la Ligue arabe, par rapport au statut de Jérusalem, par exemple. Et donc, nous voyons immédiatement, dès le commencement de la lecture, que nous sommes en pleine péripétie historiosophique, c'est-à-dire qu'il y a un décodage à faire de l'histoire que nous vivons à travers le texte et réciproquement du texte à travers l'histoire. Donc, je reprends le déroulement de la phrase. Lorsque Esaü s'aperçoit qu'il est disqualifié du point de vue de la bénédiction des patriarches menant à Israël par le fait qu'il a fait alliance avec les filles de Canaan, alliance de mariage, alors il va chez Ishmael pour prendre une fille d'Ishmael. Alors par le fait que cet épisode se produit, et nous relirons les versets précédents, Yifsik Arinyan Beparashato Shel Yaakov, le texte qui nous racontait l'histoire de Jacob et les motivations de sa fuite devant Esaü s'interrompt pour Tiv, et il est écrit le verset, je note la référence immédiatement, le verset 6 du chapitre 28, donc le verset 6 du chapitre 28 qui est juste la fin de la paracha précédente, vous l'avez sous les yeux. Vaya Esa, Liberach Yitzhak et Yaakov, Esaü a vu que Isaac avait béni Jacob, Veshilach Oto Padena Aram, et l'avait envoyé à Padan Aram, la Kahat Lo Misha Misha, pour prendre pour lui de là-bas, de Padan Aram. Padan Aram, c'est la Mésopotamie, c'est la province dont la ville est Haram. Pour prendre pour lui de là-bas femme, de Barach Oto, en le bénissant, Baitzav Alav Lemor. Et Esaü s'est rendu compte que Isaac avait commandé à Jacob, Baitzavala, et qu'il avait commandé à lui, à Jacob, les mots en disant, Lotika Ishami Benot Kanaan, tu ne prendras pas de femme des filles de Canaan. Vous voyez quelle est la parenthèse qui s'introduit dans le récit. Le récit précédent, depuis le début du chapitre 28, entreprend de raconter la raison pour laquelle Jacob va s'enfuir de Beersheba, où habite la famille d'Isaac, à cause de la haine d'Esaü. Mais entre-temps, Esaü s'est rendu compte que la consigne donnée à Jacob par Isaac, son père, était de quitter Beersheba et Eretz Israël en général, Eretz Canaan en général, pour aller se marier lui aussi dans la famille d'Abraham. Alors Esaü se rend compte de cela. Je lis la suite du texte, verset 7, Baishma Yaakov et la Bible Elimo, et que Jacob a obéi, écouté la voix de obéi à son père et à sa mère, Vaïlir Padena Aram, et qu'il était allé à Padena Aram, ויאב עשיו כי ראו את בנות כנען בעין יצחק אביו. עזאיו סרון דיפונט, לפי דקנען, את מובז עוזיו די יצחק סומפר, וילך עשיו אל ישמעאל, אלו עשיו את הרי שישמעאל, ויקח את מחלה בת ישמעאל, אין פחי, סרון דיפופם, סרון עליכם לרצה, מחלת פיל ישמעאל, בן אברהם, פיל אברהם, אחות נוויות, לסר דה נוויות, על נשב, en plus que ses femmes, לא לאישה, comme femme. Je décode, si vous voulez, mais je pense que le texte est suffisamment clair. Esaü se rend compte que sa disqualification vient de ce qu'il a épousé des filles de Canaan. Donc, après lui, ce n'est plus Israël. Nous retrouvons, lorsque nous allons reprendre ce thème, la raison pour laquelle la filiation est toujours la filiation par la mère. Mais simplement une indication, c'est que lorsque Abraham a un fils de Agar, ce fils est Ishmael. Lorsque Abraham a un fils de Sarah, ce fils est Yitzhak. Abraham est le même homme, mais avec pour mère Agar naît l'identité Ishmael, avec pour mère Sarah naît l'identité Yitzhak. C'est une des sources fondamentales de cette règle de la halakha, que l'enfant est l'enfant de la mère et non pas l'enfant du père. Bon, vous avez compris qu'il est aussi l'enfant du père. Mais dans la mesure où nous comprenons la gestation d'identité qui s'exprime à travers les engendrements, dans le sens des mutations successives qui doivent mener l'identité humaine du point de départ, le premier homme, au point d'arrivée, le fils de l'homme, et il s'agit de l'engendrement de l'identité d'Israël, la filiation est désignée par la mère. C'est la matrice qui modifie l'identité qui lui est transmise pour la retransmettre à la génération suivante. Et donc, Esaü s'aperçoit qu'il est disqualifié, l'identité d'Israël ne passe plus par lui, à cause de sa femme. Alors il y a un demi-repentir qui apparaît là. Il va chez Ishmael en faisant le raisonnement suivant. Ishmael, c'est un fils d'Abraham. Ce n'est pas Canaan. Et par conséquent, un ressourcement dans l'abrahamisme, si vous voulez, alors là je redescends dans l'époque contemporaine, un ressourcement dans le monothéisme musulman de la part de la chrétienté peut faire penser à une régénération. Mais il y a, si vous voulez, une pseudo-stratégie, il y a échec. Mais malgré tout, il y a un demi-repentir. En ce sens qu'on va se brancher sur l'identité d'Abraham par Ishmael, mais sans répudier les femmes de Canaan, c'est-à-dire les femmes idolâtres. Il y aura un branchement sur le monothéisme sémite, mais sans répudier l'idolâtrie cananéenne, antérieure à cette alliance avec Ishmael. Est-ce que c'est suffisamment clair? Donc il y a ici une péripétie médiane, intermédiaire, qui apparaît dans le déroulement du récit, que nous aurons à reprendre plus en détail dans l'introduction à notre verset. Jacob doit s'enfuir de la haine d'Ésaü. Il ne fera pas comme Abel qui reste chez Caïn. Si Jacob restait chez Caïn, Ésaü, Caïn, eh bien, il aurait le même sort que Abel. Il s'enfuit donc. Enfin, imaginons par analogie que Caïn, c'est l'Europe de la génération précédente. Que Abel, c'est le peuple juif en Europe, dans la génération précédente, qu'il y avait apparemment, entre guillemets, une relation de fraternité réussie, qu'elle n'a pas été réussie, que Caïn n'a pas été éduqué, qu'il est resté inéducable. Eh bien, ce qui s'est passé dans la génération précédente, c'est bien évidemment l'histoire Caïn-Abel, et non pas l'histoire Esaü-Jacob, sinon partiellement. Très partiellement, Jacob s'est enfui de chez Esaü-Caïn, mais fondamentalement, Jacob est resté comme Abel chez Caïn et il y a eu le meurtre d'Abel par Caïn. Dans tous les cas, dans notre récit, le modèle qui nous est présenté, c'est que lorsque dans l'identité d'Israël, cette péripétie arrive, alors l'issue c'est la fuite, si on n'a pas déjà eu le temps d'éduquer le frère. Ben, le frère, c'est l'autre chez qui on vit et qui n'est pas encore arrivé à. Au stade où la moralité devient la constitution de l'État. Mais il y a quand même une sorte de revirement, pas repentir, mais pas repentir partiel, de ressourcement à l'identité biblique, mais à la manière d'un branchement sur Ishmaël, et non pas du tout d'une relation directe d'Ésaü à Jacob. Je pense que c'est suffisamment clair. Alors il y a là une parenthèse. Une parenthèse qui va nous expliquer quoi ? La fin de Rachid, où Michel Gamar hasard la Rignana Richon, et lorsque la parenthèse a été close, Michel Gamar, le texte revient sur le sujet précédent. Donc le sujet précédent s'était interrompu au verset 6 du chapitre 28. Alors reprenons le début du chapitre 28. Depuis le début du chapitre 28. Nous avons tout à l'heure à comparer la motivation du voyage de Jacob lorsqu'elle est donnée par Rebecca, la mère, et la motivation du voyage de Jacob lorsqu'elle est donnée, comme maintenant, par Isaac, le père. Mais nous allons commencer à lire le chapitre 28. Vayikra, Yitzhak et Yaakov, et Isaac appela, invoqua, appela Jacob, Vayibarechoto, et le bénit, Vayitzaveu, et lui ordonna, lui recommanda, Vayomerlo, et il lui dit, Lotika Hisham ibnotna, tu ne prendras pas de femme du pays de Canaan. Vous remarquerez tout de suite, tout ceci doit être noté pour la comparaison des deux motivations. Vous remarquerez tout de suite qu'il ne s'agit pas du tout ici. Dans la pensée d'Isaac, en voyant Jacob à Padan Aram, et donc dans la province dont la ville s'appelle Haran, notez bien tous ces détails, dans la famille d'Abraham, antérieure, il ne s'agit pas du tout de la haine d'Ésaü. Il s'agit du projet des engendrements. On a établi dans le bilan du texte précédent que l'échec, la disqualification serait que l'enfant des patriarches, des engendreurs futurs de l'identité d'Israël future, ne doivent pas mélanger leurs semences à celles des cultures qu'Israël doit remplacer pour l'avenir. Et que le bilan a été fait par Rebecca et Isaac, les deux. Notez aussi cela, que les filles de Canaan sont mauvaises. Ça veut dire qu'il y a impasse dans les engendrements. Il y a échec du projet du Créateur. Le Fils de l'homme ne peut pas surgir de cette civilisation en coquille à l'échec, à l'impasse, et on nous signalera de péripétie en étant péripétie quel est l'échec de la civilisation de Canaan. C'est la violence, à tous les niveaux. Et en fin de compte, le comble de l'échec, c'est la situation de Sodome et Gomorre au temps d'Abraham. Il y a un jugement, un bilan qui est fait. L'avenir de l'humanité ne peut pas passer par le stade où est arrivé cette société de Canaan, qui était le centre de l'humanité avant que ne surgisse, avant que ne soit suscitée l'identité d'Israël. D'une certaine manière, Abraham sort de Ur Kasdim pour préparer un peuple qui remplacera la civilisation de Canaan. Certains historiens, d'ailleurs, de ce temps de préhistoire, entre guillemets, notent qu'effectivement, la terre de Canaan, qui deviendra Eretz Israël, a été d'une certaine manière le berceau des civilisations qui ont donné les civilisations contemporaines. La Mésopotamie d'une part, l'Égypte de l'autre, et au centre, le berceau de la culture du bassin méditerranéen serait situé, à une époque préhistorique pour les chronologies contemporaines, serait situé dans le pays du Canaan, devenu le pays d'Israël. Il y aurait donc une sorte de métropole de la civilisation humaine qui aboutit à un échec d'immoralité. Et Israël, à partir d'Abraham, est préparé, suscité pour remplacer cette civilisation de Canaan. Et le projet d'Isaac, c'est de trouver le moyen de résoudre cette difficulté, plus qu'une difficulté, cette impasse, avec qui marier Jacob, de telle sorte qu'Israël puisse naître, c'est-à-dire les enfants de Jacob, les enfants d'Israël, les tribus qui fonderont, dans le sens de fonder, on va fonder, comment dit-on en français, qui pourront fonder la société d'Israël. Alors Isaac convoque Jacob, et on ne parle pas du tout de la haine d'Ésaü, c'est une toute autre motivation. Isaac convoque Jacob et lui dit, « L'optique Aïcha, mi benot Knaan, tu ne prendras pas de femme parmi les filles de Knaan. » Est-ce que c'est clair? La suite. « Kum lech padena aram, lève-toi, décide-toi, va à Padan Aram, Beta Betuel Abimecha, vers la maison de Betuel, qui est le père de ta mère. Betuel était le père de Rebecca. Vekar lecha Misham Isha, et prends pour toi de là-bas une femme, mi benot Laban, achi mecha, des filles de Laban, frères de ta mère. Entre-temps, on a appris qu'un deuxième miracle est arrivé à la génération suivante. Non seulement il y avait Rebecca pour Isaac, mais on apprend que chez Laban, il y a des filles qui sont nées, prêtes à devenir épouses des enfants d'Abraham et d'Isaac. Et c'était Léa et Rachel. Léa, tout Esaü, si Esaü était resté tzadik, si Esaü était resté convenable, et Rachel pour Jacob. Comme Esaü va être disqualifié, Jacob aura à prendre en charge et Léa et Rachel. Nous verrons cela par la suite. Ve'el Shaddai et Barechotra, et le Dieu Tout-Puissant te bénira. On peut aussi traduire sous forme de souhait, et que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Chaque fois que le texte porte l'expression El Shaddai, nous traduisons par Dieu Tout-Puissant, ça signifie premièrement le Dieu de la promesse, le Dieu qui promet, Dieu qui se révèle dans la promesse, et deuxièmement ça signifie Dieu qui donne la possibilité de la fécondité, des engendrements. El Shaddai, c'est toujours le terme qui est employé par le texte pour dire aussi la promesse de l'engendrement. Mais El Shaddai Ibarerotra, et le Dieu Tout-Puissant, c'est une traduction un peu conventionnelle, mais ce n'est pas l'objet de l'étude en particulier, te bénira, ve'yafrecha ve'yarpecha, te fructifiera et te multipliera, ve'aïta l'karamim, et tu deviendras une assemblée de nations. Réfléchissons un peu sur cette expression. Jacob est destiné, donc Israël, est destiné à devenir kehal amim, un kahal, une assemblée, amim, de peuple, plus exactement que de nation d'ailleurs. Il y a aussi une autre phrase qui dit kehal goyim. Mais ici, dans ce chapitre, nous avons Kehal Amim. Le Midrash explique que chaque tribu d'Israël peut devenir un peuple à elle toute seule. Reuven peut être Israël à la manière de Reuven. Shimon, Israël à la manière de Shimon. Et donc, Israël, comme collectivité, est déjà en lui-même, comme nation une, comme peuple un, est déjà un rassemblement de peuples possibles à l'échelle des tribus. Et aujourd'hui, nous dirions à l'échelle des communautés. Il est bien évident que chaque communauté juive, chaque manière d'être Israël, peut être Israël toute seule, pourrait être Israël toute seule. Chacune des communautés, c'est un peuple juif. Et Israël, c'est l'ensemble, le kahal de tous ces peuples juifs-là. Est-ce que c'est clair? On peut faire une allusion schématique. Et on parle des Ashkenazim et des Sfaradim. Mais chez les Ashkenazim, il y a 1000 communautés différentes. Chez les Sfaradim, il y en a 1001, parce qu'ils sont toujours plus nombreux. Là, et un peu plus individuels. Et il est bien évident que chaque... Mais il n'y a pas que les Ashkenazim et les Sfaradim. Il y a beaucoup d'autres communautés originales. Et nous, on les a fondues un peu dans ces deux ensembles, assez schématiquement et assez artificiellement d'ailleurs. Par exemple, ne serait-ce que le rite italien, qui n'a rien à voir ni avec le rite ashkenazi, ni avec le rite sfarad. Le rite italki, c'est encore autre chose de très, très spécial. Ou le rite, enfin le rite, la communauté yéménite. Bien qu'il y ait des relations, des analogies, mais en fait, ce ne sont ni des ashkenazi vraiment, ni des sfaradis vraiment. Eh bien, chacune de ces communautés est un peuple d'Israël. Quand nous étions isolés, chacun dans son continent, si j'ose dire, et qu'on ne parlait des autres que de façon plus ou moins mythique. Eh bien, on se pensait, nous les Juifs, nous Israël, compte non tenu des autres communautés. C'est un peu ce qui est indiqué ici. Il y a une vocation universelle même de l'universalité d'Israël qui reflète dans sa diversité de tribus, de communautés, toute la diaspora humaine. Veïten Echaïd Birkat Abraham, c'est le souhait qui continue, que Dieu te donne, que Dieu le Puissant te donne la bénédiction d'Abraham. Lecha uzaracha itach, à toi et à ta postérité avec toi, l'irichtecha et eret megorecha, pour te faire hériter du pays, de la terre, le pays eret megorecha, de tes voyages, de tes pérégrinations, on pourrait dire à la limite, du pays où tu es considéré comme étranger, bien que ce pays t'appartienne. C'est très exactement l'identité d'Eret Israël, où les Juifs sont considérés comme étrangers en Eret Israël, bien que ce soit leur terre. C'est bien évidemment les autres qui sont chez eux. L'Erichtera et Teret Megorecha, pour faire hériter du pays de tes voyages, Asher Natan Elohim le Abraham, que Dieu a donné à Abraham. Vous remarquez tout de suite que cette bénédiction dont il s'agit ici, au chapitre 28, n'est pas du tout la bénédiction qui était destinée à Ésaü et qui, elle aussi, sera donnée à Jacob. Mais ici, il s'agit d'une autre bénédiction très particulière, destinée à Jacob a priori, et qui est nommée dans le récit la bénédiction d'Abraham. Ben, je pense qu'il est nécessaire d'ouvrir une petite parenthèse. C'est-à-dire, en fait, nous verrons immédiatement qu'Isaac avait à transmettre à ses enfants deux bénédictions. Une, qui était celle qui était prévue pour Ésaü, avant sa disqualification, et qui est la bénédiction des biens matériels. Nous verrons la formule essentielle, « Mita la shamaim mishmane haaret », qui signifie que tu sois béni par la rosée du ciel et le gras de la terre, c'est-à-dire l'abondance de la récolte. C'est la bénédiction matérielle. Elle était prévue pour Ésaü. Elle sera donnée aussi à Jacob, et Jacob la refusera d'ailleurs. Il n'a jamais reçu, il n'a jamais accepté. Et nous verrons cela d'autres temps. Et vous voyez qu'il y a énormément de calomnies et de légendes autour de cette terre. D'autre part, Jacob avait pour lui, en particulier parce que lui n'a pas pris de fille de Canaan, l'héritage de la bénédiction d'Abraham, qui est la bénédiction, disons, spirituelle. Est-ce que c'est bien clair? Peut-être que demain nous aurons une salle avec un tableau plus aisé, mais là, c'est difficile. Enfin, nous verrons en tout cas, et nous ferons un schéma. Mais retenons déjà qu'il y a deux bénédictions dans ce contexte. La bénédiction des biens matériels que Isaac prévoyait pour celui de ses enfants qui aura choisi la vocation matérielle. Ce que nous pourrons nommer, en langage contemporain, la vocation, comment dire, temporelle. Alors que il y a une deuxième bénédiction, qui est la bénédiction, disons, spirituelle. Ici, les termes en français sont un peu plats par rapport à ce que dit l'hébreu, mais vous comprenez de quoi il s'agit, et qui était prévu pour celui qui serait le véhicule de l'engendrement messianique. Jacob devenant le berger, point de départ de l'histoire de Abel, et d'ailleurs tous ces récits sont une sorte de test. Par où passe le berger? On cherche qui est le berger, non? Dans tout le récit de la Bible, depuis le début. Et celui qui est capable d'être berger, alors celui-là devient Israël. C'est aussi un thème que nous aurons à reprendre à l'occasion. Alors que dans les textes des évangiles, on ne cherche pas les bergers, on cherche les pêcheurs. C'est un tout autre thème. Pas les pêcheurs, ceux qui font des péchés. Alors là, nous avons en tout cas une indication extrêmement importante. Il y a deux bénédictions qu'Isaac prévoit pour ses enfants. La bénédiction matérielle qui devait aller à Ésaü, puisqu'Ésaü a choisi le monde de la matière, la vocation temporelle. Et puis la bénédiction spirituelle qui devait aller à Jacob. Le diagnostic de Rebecca, c'est qu'il faut qu'il y ait alliance entre les deux frères, pour que les deux héritent à la fois des deux bénédictions. Je pense que c'est suffisamment clair. Si Jacob aime Ésaü et Ésaü aime Jacob, alors Ésaü partagera avec Jacob de la bénédiction de ce monde-ci, qui lui appartient, à lui Ésaü, l'homme de la vocation matérielle, et Jacob partagera avec Ésaü la bénédiction du monde à venir, qui lui appartient à lui Jacob, c'est-à-dire la bénédiction spirituelle. Mais s'il n'y a pas amour du frère au frère, les deux sont perdus. L'analyse que nous donnent les commentaires est très précise. Les deux sont perdus. Et d'ailleurs, Rebecca dit « Pourquoi serais-je veuve de vous deux le même jour ?» Vous vous rappelez de ce verset. En hébreu, pour dire avoir perdu un enfant, pour la mère, on dit être veuve de l'enfant. Et effectivement, si Ésaü ne donne pas de part à Jacob dans ce monde-ci, Jacob ne pourra pas, de ce monde-ci, aller au monde à venir. Il faut passer par ce monde-ci pour arriver au monde à venir. Et si Jacob ne donne pas de part à Ésaü du monde à venir, après ce monde-ci, Ésaü est perdu. Et donc les deux seraient perdus s'il n'y a pas amour du frère au frère. C'est-à-dire, si l'équation de fraternité Abel-Caïn n'est pas résolue, les deux, et Abel et Caïn, sont perdus. Je pense que c'est clair. C'est ce que Rebecca veut éviter. Alors il y a toute une stratégie qui est dans le chapitre précédent, où Rebecca oblige Jacob à recevoir aussi la bénédiction promise à Ésaü. Mais dans tous les cas, ici, dans notre chapitre 28, il a normalement la sienne propre, c'est-à-dire la bénédiction d'Abraham. Je continue donc le verset, nous sommes arrivés au verset 5. « Vaishlach Yitzhak et Yaakov, Alors, c'est toujours le récit de la péripétie historique qui continue. Alors, Isaac envoya Jacob, Bayeler Paden Aram, et il partit à Paden Aram, El Laban Ben Betuel, chez Laban, fils de Betuel, à Aram ou d'Araméen. Tous ces détails sont importants, mais ce n'est pas l'objet exact pour moi, c'est une introduction. Achi Rivka, frère de Rebecca, on le sait déjà, mais ici il n'y a pas simplement redit. Emi Yaakov et Esav, mère de Jacob et d'Ésaü. Nous avons prévu lundi soir prochain une étude publique, je pense qu'on vous l'a déjà signalé, pas encore. Et nous reviendrons sur cette partie du verset. Pourquoi Rebecca est définie ici dans ce verset, Emi Yaakov et Esav, mère de Jacob et d'Ésaü. Et vous verrez tout de suite, vous pouvez préparer cela. Rachid dit, je ne sais pas ce que ce verset vient nous enseigner. Alors on se demandera pourquoi Rachid dit cela. À propos d'un autre problème, mais nous devons à reprendre. Parce qu'on sait déjà que Rebecca est la mère de Jacob et d'Ésaü. Rachid, c'est un Rachid extrêmement étonnant, qui nous dit Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. On le sait déjà, alors on ne sait pas ce que ce verset vient nous enseigner. La manière classique d'expliquer ce Rachid, pour laquelle il faudrait d'ailleurs plusieurs heures, serait de dire que Rachid va nous donner ici une leçon de morale, de modestie, d'humilité. Rachid est un grand commentateur, mais quand il ne sait pas, il dit qu'il ne sait pas. Mais une fois qu'on a fini cette explication, on se repose la question. Mais c'est pas clair. En fait, ce que Rachid va nous dire, mais nous verrons ça plus en détail. Je sais ce que ça veut dire, mais je ne peux pas le dire. On demandera qu'est-ce qu'il aurait dû dire qu'il ne peut pas dire. Vous comprenez la deuxième lecture de Rachid. C'est-à-dire que tout se passe comme si Rachid nous dit, vous voulez voir qu'il n'y a rien ici, ben je mets quelque chose et je n'en ai. Vous voyez bien qu'il n'y a rien, puisque j'ai mis quelque chose, mais je n'en ai pas. Alors ne dis rien, ne dis pas. Voyez. Bien. Donc il y a ici quelque chose d'assez important, mais nous verrons ça lundi soir prochain. Vaya, et ça, et nous arrivons à la parenthèse qu'avait signalé notre Rachid sur notre verset. Est-ce que je ne vais pas trop vite? J'ai conscience d'aller très lentement, mais ça va, c'est un peu. C'est pas compliqué. Non. Mais je demande ça à tout le monde. Bien. Alors on peut aller peut-être un peu plus vite. Voilà ce que nous disait Rachid. Et nous reprenons Rachid sur notre verset, notre réalité. Aïdé, Shebishbi, Shebaot, Benot, Kanaan, Beni, Trakavi. Par le fait que, à cause du fait que les filles de Kanaan étaient mauvaises aux yeux, d'Isaac, son père. Halach Esav et Ishmael, Esaü est allé chez Ishmael. Et Psikaïnian, le sujet a été interrompu, quel sujet de récit de la fuite de Jacob de devant Esaü. Tu voulais la sortie de Beersheba pour aller à Haran. Pourtant, et il est écrit cette parenthèse qui commence au verset 6 du chapitre 28, Vaya Esav Verach Vegomer. Et Esaü vit que Isaac avait béni Jacob en l'envoyant à Paddan Aram pour prendre de lui une femme, ou Mishagama, Hazar et Yanaj. Et lorsque cette parenthèse a été finie, notre texte à nous revient au sujet précédent, c'est-à-dire le récit du voyage de Jacob, quittant Eretz Israël, s'arrêtant dans un certain endroit, ayant la vie de l'échelle, mais nous devons étudier avec plus de détails. Est-ce que jusque-là, ça va? Bon, alors vous avez 5 minutes de questions, et on va en parler.
N'implique pas d'une certaine façon une renonciation à l'éduquer.
Non, nous verrons que Abel, lui, ne s'enfuit pas devant.
Non, pas le Abel.
Qu'est-ce qui se passe entre Jacob et Esaü? Jacob prend acte que Esaü est inéducable, mais il ne l'abandonne pas complètement. Il lui donne rendez-vous à la fin des temps, pour des temps meilleurs. C'est vrai que ce rendez-vous est indiqué dans la paracha du Vaishlach, lorsque Jacob revient de son exil. Que Esaü le rencontre. Alors, premier de texte, il donne rendez-vous pour la paix. Disons pour des temps meilleurs. Mais je crois que, vous avez bien compris, d'ailleurs, ce n'est pas du tout inutile de faire allusion à ce thème de notre histoire contemporaine. Il est bien évident que, dans la génération précédente, le peuple juif s'est laissé prendre au piège une stratégie que pourtant, d'un manque de stratégie que pourtant la Bible l'avait enseigné, vous connaissez le principe fondamental, Maasé Avot Siman Labanim. Si la Torah nous a raconté l'histoire des pères, c'est pour que ça serve de leçon aux enfants. Et je ne crois pas d'ailleurs que la situation que je désigne là soit close, c'est pas fini. Parce que à quel moment Caïn a été disqualifié? C'est quand son descendant Tubal-Caïn a construit les armes. Alors il est bien évident que la civilisation européenne contemporaine a un seul objectif, c'est de construire des armes. Donc c'est pas fini. Phrase non payée par la langue.
Oui. Dans le texte de la Torah, avant de passer aux éléments contemporains, il faut quand même lire le texte tel qu'il est écrit. Il y a une différence fondamentale, c'est que pour fuir Esaü, Jacob quitte la Israël et s'en va en Galilée.
C'est ce que nous allons voir tout de suite. Et là, dans le Midrash, nous allons lire là, je reprendrai cette suite. Mais là, la question est très exactement à sa place. Et Sarah. Okay. Oui, mais là, il n'y a pas rivalité. Et là, c'est lorsque la société des enfants de Jacob, Israël, est, comment dire, engendrée, que la rivalité du frère au frère est résolue entre Joseph et Judas, alors tout est intériorisé dans le sens de la réussite, dans le sens de, comment dire, issue positive, plus que l'espérance, dans le sens de la réussite et donc de l'engendrement de la famille directe. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où l'équation de fraternité est résolue, dans l'identité Jacob devenu Israël, que le livre de la Genèse prend fin. Lorsque Joseph et ses frères sont conciliés, plus que réconciliés, reconciliés, le livre de la Genèse prend fin, l'histoire d'Israël commence. Et nous voyons, si vous voulez, le progrès successif de cette équation. Et Caïn tue Abel. Ensuite, c'est Abraham qui reprend le problème, la relation est avec Lot, le neveu d'Abraham, mais qui est appelé son frère, analogiquement, anthropologiquement d'ailleurs, par le récit. Et Abraham et Lot n'arrivent pas à construire les poissons fraternités, alors ils se séparent. Et Abraham dit à Lot, si tu vas à droite, je vais à gauche, si tu vas à gauche, je vais à droite. Petite parenthèse que cite Rashi d'ailleurs, ce que ça veut dire, si tu vas à droite, je vais à gauche, si tu vas à gauche, je vais à droite. C'est évident, si tu vas là, je vais là, puisqu'il s'agit de se séparer. Rashi, c'est un midrash extrêmement profond. Il dit, je m'éloignerai, mais pas trop loin. Si tu vas à droite, je n'irai qu'à gauche. Et si tu vas à gauche, je n'irai qu'à droite. De telle sorte d'être là pour te protéger si tu as besoin, effectivement, c'est ce qui va arriver. Lorsque l'autre a perdu dans la civilisation de Sodome et Gomorrhe, Abraham vient à son secours. Mais il y a une séparation. Ensuite, il y a, après Abraham, Ishmael et Isaac. Il n'y a pas de communication. Il n'y a aucune parole échangée entre Ishmael et Isaac, comme je vous dis souvent. Les Arabes n'avaient pas de parole. Et c'est plus qu'analogique, c'est cette situation même. Peut-être que demain, après-demain, on ne sait pas. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de négociation directe. Remarquez cela, tout le monde parle dans la Bible, même le serpent, sauf Ishmael. Même le serpent parle dans la Bible, mais pas Ishmael. Et puis, après, c'est Esaü et Jacob. Chaque fois, il y a un léger progrès. Et puis en fin de compte, c'est Joseph et ses frères, et au niveau Joseph et ses frères, tout est résolu et résorbé dans l'identité d'Israël. Alors l'histoire commence. Je pense que j'ai...
Je comprends bien que il y a des frères, il y a un même,
mais
peut-être que ce soit
des jumeaux. Oui. Bien, finalement, c'est dans la lignée de Judas que c'est résolu. C'est cette équation-là qui est résolue dans l'identité d'Israël. J'ai peut-être parlé un peu trop schématiquement. Et c'est la même équation, c'est les mêmes données du même problème dont la Torah parle depuis Caïn et Abel et ensuite à travers l'histoire d'Israël depuis Abraham. Je pense que c'est suffisamment clair. Et vous suivrez d'étape en étape, de génération en génération, il y a un progrès. Dès que Abraham est là, alors il s'agit d'un Abel inassassinable. Et la Torah nous fait assister à l'amélioration des données du problème jusqu'à l'équation fondamentale Joseph-Judas. Enfin, Joseph et ses frères. Mais à la tête des frères de Joseph, il y a Judas. Et les deux jumeaux dont vous parlez sont dans la lignée de Judas. Et là, il n'y a plus rivalité. Si vous voulez, de façon très furtive, comme par clin d'œil, Ratoura nous raconte presque la même histoire, mais en passant, c'est résolu, il n'y a plus de problème. Est-ce que c'est plus clair? Je vous signale d'ailleurs une petite parenthèse que nous avons peut-être étudiée d'autre part. C'est le nom même qui est donné à Joseph qui nous l'indique. Lorsque Joseph naît, sa mère l'appelle Yosef. Et elle le nomme du nom, si vous voulez, en désignant Benjamin, qui n'est pas encore. Elle dit Yosef, Hachem, li, ben, acher. Ça veut dire littéralement en hébreu, que Dieu m'ajoute, qu'il m'ajoute, Yosef, qu'il m'ajoute un autre fils. Je l'expliquerai de la manière suivante, mais je pense que vous avez déjà compris. Et lorsque Caïn est le fils, Abel, qui est le frère, est en danger. Mais voilà ce que Rachel voit lorsque cet enfant est né. Elle voit que c'est un enfant fraternel. Donc elle peut demander à notre fils, il ne sera pas en danger. Est-ce que c'est clair? C'est quoi elle dit? Que Dieu m'ajoute quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, qui sera Benjamin, le frère de Joseph, ne sera pas en danger avec Joseph, alors qu'il me l'ajoute. Tandis que, à propos de la naissance de Abel, nous avons le même terme qui est employé par le verset, mais ça vous dit la catastrophe. Va Tosef la ledet et Achiv et Abel. Et elle ajoute à l'enfanter Ève. Et Ève, après avoir eu Caïn, elle ajoute à l'enfanter quelqu'un de plus, en plus, son frère Abel. Mais ce frère qui est ajouté en plus, Abel, est en danger parce que le fils c'est Caïn. Mais si le fils c'est Joseph, alors Benjamin n'est pas en danger. Alors, Joseph est nommé de l'appel à Benjamin. Est-ce que c'est pas trop compliqué? Et c'est ainsi que nous voyons la solution. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire de voir que le verset suivant, Jacob dit à Laban, tout ceci se passe dans l'exil chez Laban, au verset suivant, dès que Joseph est né, et c'est toute la tradition du Mashiach ben Yosef qui met fin à l'exil, Jacob dit à Laban, et bien voilà, ça y est, on a réussi, alors... Renvoie-moi et j'irai chez moi, dans mon pays. Et regardez bien le verset. Si on ne le renvoie pas, il s'en va.
Oui. Dans le problème entre Esaü et Jacob, Esaü est oublié que c'est lui-même qui a vendu son droit d'aîné. Est-ce que c'est un tour de passe-passe?
Non, vous savez, vous désignez là, nous n'avons pas parlé en détail de votre question, mais vous désignez là ce qui serait une invitation à l'analyse des causes profondes de l'antisémitisme. Mais vous désignez bien un problème bien important, qui n'est pas encore, si vous voulez, dans notre sujet, mais...
Une amnésie pas tellement
inconsciente.
Ouais.
C'est, si vous voulez, à la limite, le Romain qui se prend pour Israël, un Rome qui se prend pour Jérusalem, alors qu'elle sait très bien qu'elle est Rome et pas Jérusalem. Comme diraient les Gaulois, ils sont tous ces Romains. Bien, eh bien, oui.
Vous avez dit que n'importe qui vous avez dit, mais que la réciproque n'est pas. Ouais, alors je ne vois pas très bien où vous mettez la différence, parce qu'en réalité, on voit souvent, en particulier des Juifs.
Là, vous avez un problème formulé de manière différente de ce que j'ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas parlé de la réciproque de juifs à... Ça veut dire, prenons, si vous voulez, les nations, les non-juifs, entre eux. Ils sont, si vous voulez, différenciés en identité spécifique. Chaque famille humaine, chaque société, chaque peuple, chaque race, si vous voulez, chaque nation, étant elle-même. On ne passe pas de l'une à l'autre. Même, si vous voulez, on est trompé par la fiction de la citoyenneté des États. On ne passe pas d'une ethnie à une autre ethnie. Tandis que n'importe qui peut devenir juif. Vous avez parlé d'un aspect un peu différent. Vous avez parlé d'ailleurs d'un problème extrêmement compliqué pour la halakha elle-même, mais qui est le problème de l'assimilation.